Cette seconde cassette contient deux autres contes d'Afanassiev qui ont également servi à Pierre Gripari pour son conte « Je ne sais qui, je ne sais quoi ». Chacun de ces contes peut être écouté séparément. Le premier conte s'appelle « Le démuni ». D-E accent aigu, M-U-N-I. Ce nom te sera expliqué dans l'histoire. Il était une fois un marchand très riche qui avait un fils déjà grand. À la mort du marchand, le fils resta seul avec la mère et voulut reprendre le commerce. Mais ses affaires tournèrent mal. La chance, la fortune ne lui souriaient pas. Ce que son père avait mis 3 ans à gagner, lui, il le perdait en 3 jours. Il se ruina et de toute sa richesse, il ne lui resta, tant il était malchanceux, qu'une pauvre maison. Le brave gaillard voit les tiroirs vides. Il s'assied sur le banc près de la fenêtre, se gratte la nuque et dit « Que faire pour nous nourrir ma mère et moi ?» Au bout d'un moment, il demanda à sa mère de lui donner sa bénédiction et lui dit « Je pars me louer chez un riche paysan, comme ouvrier agricole. » La marchande le laissa libre d'aller. Il partit donc se louer chez un riche marchand, où on l'engagea 50 roubles pour l'été. 50 roubles, c'est 50 pièces d'argent. Il se mit au travail du meilleur cœur, mais malgré son bon vouloir, il ne savait rien faire. Tantôt il brisait une hache, tantôt il cassait une faux. Son patron, qui y avait déjà perdu plus de 30 roubles, se força à le garder jusqu'au milieu de l'été. Mais là, il n'y tint plus et le renvoya. Le vaillant gaillard rentra à la maison, s'assit sur le banc près de la fenêtre, se gratta la nuque et se mit à pleurer amèrement. « Que faire pour nous nourrir, ma mère et moi ?» Sa mère le questionna. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ? Eh, crois-tu qu'il n'y ait pas de quoi, mère, quand on a de bonheur à rien ? Donne-moi ta bénédiction, je vais aller garder les vaches. » Sa mère le laissa aller. Il se loua 100 roubles pour l'été. Mais la moitié de la saison ne s'était pas écoulée qu'il avait déjà perdu plus d'une dizaine de vaches. Encore une fois, il se trouva renvoyé. Il rentra au logis, s'assit sur le banc près de la fenêtre, pencha sa tête hardie et pleura amèrement. Quand il eut bien pleuré, il demanda à sa mère sa bénédiction. « Je pars à l'aventure, lui dit-il. » Sa mère lui prépara des biscuits secs, les mit dans un sac et lui donna sa bénédiction. Il partit droit devant lui. Le chemin fut-il bref ou long, toujours est-il qu'il parvint dans un autre royaume. Le tsar, c'est-à-dire le roi de cet autre royaume, l'aperçut et lui dit « D'où viens-tu et où vas-tu ? » « Je cherche du travail, répondit-il. Peu importe lequel, j'accepte tout. » « Eh bien, dit le tsar, viens travailler dans ma distillerie. » La distillerie, c'est l'usine où on fabrique de l'alcool de grain, la vodka que boivent les Russes. « Tu seras chargé d'apporter de bois et d'entretenir le feu. » Tout content de l'aubaine, le fils de marchand s'engagea pour 150 roubles l'an. Mais la moitié de l'année ne s'était pas écoulée qu'il avait mis le feu à la distillerie. Le tsar le fit venir et lui dit « Comment as-tu fait pour faire brûler la distillerie ?» Le fils de marchand raconta ses mésaventures et sa malchance. « Partout où je travaille, je suis renvoyé avant la moitié du temps, avoua-t-il. » Le tsar, le roi, eut pitié de lui et ne le punit pas. Il le nomma le démuni, c'est-à-dire celui qui n'a plus rien, ordonna qu'on le marque d'un tampon en plein front, qu'on ne lui impose ni taille, c'est un impôt, ni corvée, un travail obligatoire, et qu'en tout lieu, on lui offre gîte et nourriture, c'est-à-dire à coucher et à manger, sans jamais le retenir plus d'une journée. « Va où bon te semble, dit le tsar, personne ne te demandera rien, personne ne te cherchera d'ennui, et tu seras toujours nourri et logé. » Le démuni s'en fut par les chemins. Où qu'il aille, personne ne lui demandait ni carte d'identité, ni passeport. Partout, on lui offrait gîte et nourriture, et au matin, on le chassait. Erra-t-il peu ou longtemps de par le vaste monde, toujours est-il qu'il pénétra dans une sombre forêt. Dans cette forêt était une isba, I-S-B-A, c'est-à-dire une cabane en bois comme il y en a en Russie, et dans l'isba vivait une vieille. La vieille lui sert à manger et à boire, lui donne de bons conseils.
« Prends ce sentier, il te mènera à un lac bleu. Là, tu verras une grande maison. Entre-y, hardiment. »
Ainsi fit-il. Par le sentier, il parvient au lac bleu, aperçut la belle maison, entra dans la première pièce, vit la table préparée pour le repas et sur la table, une miche de pain blanc. Il prit un couteau, se coupa une tranche de pain qu'il mangea. Puis il grimpa sur le poêle et, se cachant derrière la pile de bois, se mit à attendre le soir. Le poêle, P-O-E, accent circonflexe, L-E, c'est, tu le sais bien, un appareil de chauffage. La Russie est un pays où il fait extrêmement froid en hiver et on a de grands poêles en faïence qui ont 2 mètres de large sur 2 mètres de long et sur 2 mètres de haut. On peut donc se coucher sur le poêle. On est bien au chaud, mais on ne brûle pas comme si le poêle était en fonte. Le soir tombe, paraissent 33 filles, toutes sœurs, toutes de la même taille, toutes vêtues pareilles, toutes aussi belles. En tête marche la sœur aînée. Elle aperçoit la miche de pain. « Il me semble, dit-elle, que je sens comme une odeur russe. » Mais la dernière répond, « Que dis-tu là, ma sœur ? Mais c'est nous qui avons erré à travers la Russie, qui sommes pleines d'odeurs russes. » Les filles s'attablèrent, soupèrent, bavardèrent, puis montèrent chacune chez soi. Dans la chambre de devant, demeura la plus jeune, qui se déshabilla, se coucha et s'endormit profondément. Alors, le vaillant gaillard lui prit sa robe. De bonne heure, le matin, la belle fille se leva, voulut chercher sa robe. Elle se jette de ci, de là, peine perdue. Les autres sœurs, habillées depuis longtemps, s'étaient transformées en colombes et avaient pris leur vol vers le lac bleu, la laissant seule. Alors, elle prononça à voix haute. « Qui que tu sois qui a pris ma robe, réponds sans crainte. Si tu es vieux, sois un grand-père pour moi. Si tu es vieille, sois une grand-mère. » Si tu es d'âge mûr, sois un père ou une mère. Et si tu es un vaillant gaillard, sois mon fiancé. » Alors le fils de marchand se laissa glisser du poêle et lui tendit sa robe. Aussitôt, elle l'enfila, le prit par la main, l'embrassa sur les lèvres et dit « Allons, cher ami, ne restons pas ici, il est temps de se mettre en route, de se trouver un logement. » Elle lui mit un sac sur l'épaule, en prit un autre et le conduisit dans un souterrain. La première porte qu'elle ouvrit donnait sur une cave pleine de pièces de cuivre. Tout réjoui, le démuni se mit à remplir le sac à pleine poignée. Mais la belle fille, riant aux éclats, vida le sac et referma la cave. Ahuri, il la regarda. « Ben pourquoi fais-tu cela ? Sommes-nous donc si riches ?»« Bah !» répondit-elle, « quelle richesse est-ce là ? Voyons si on ne pourrait pas trouver mieux. » Elle le mena à une autre cave qui était bourrée de pièces d'argent. Jubilant déjà, le démuni allait en ramasser, quand elle rit à nouveau. « Ah, est-ce la richesse, cela ? Allons, continuons à chercher. » Dans la troisième cave étaient amassés de l'or et des perles. « À présent, dit-elle, vas-y, remplis les deux sacs. » Et lorsqu'ils se furent chargés de tout l'or et de toutes les perles qu'ils pouvaient porter, ils partirent dans le vaste monde. Le chemin fut-il court ou long ? Traversèrent-ils vallées ou monts ? Compter, c'est vite fait. Agir, c'est bien plus long. Toujours est-il qu'ils regagnèrent le royaume où le fils de marchand avait travaillé à la distillerie. Le tsar le reconnut. « Ah, c'est toi, le démuni. Alors, tu t'es marié ? Mais tu en as une belle femme. Si tu le désires, je te permets de vivre dans mon royaume. » Le fils de marchand prit l'avis de sa femme qui lui conseilla. « Qu'importe où nous vivons, ne crachons pas sur ce qui nous est offert et installons-nous donc ici. » C'est ainsi qu'ils demeurèrent dans le royaume, y montèrent leur ménage et se mirent à vivre en bonne entente. Au bout de quelque temps, un général, courtisan du tsar, les jalousa. Il alla trouver une vieille magicienne à laquelle il se confia.
Écoute, grand-mère, dis-moi comment me délivrer de ce fils de marchand. On l'appelle le démuni et il vit deux fois plus richement que moi. Le tsar a plus de confiance en lui quand ses seigneurs et conseillers réunis. Et il a une femme si belle, qu'on ne peut pas se lasser de la regarder.
Oh, il y a remède à cela. Va voir le tsar et raconte sur lui pique-pendre. Jure que le démuni se vante à tout un chacun d'aller dans la ville rien chercher personne.
Le général court chez le tsar. Le tsar envoie chercher le fils de marchand.
Et alors, le démuni, dit le tsar, de quoi te vantes-tu donc à tout venant ?
Dès demain, tu prends la route et tu vas à la ville rien et ramène personne. Si tu n'y parviens pas, tu seras privé de ta femme.
Le démuni rentre à la maison, pleurant amèrement. Sa femme l'accueille.
Qu'y a-t-il, cher ami ? Quelqu'un t'a-t-il fait de la peine ? Le tsar ne t'a pas offert à boire, ne t'a pas fait asseoir à ta place ? T'a chargé d'un travail difficile ?
Oh, pour un travail difficile, répond le démuni, il l'est. Et il l'est d'abord à imaginer. Figure-toi qu'il me demande d'aller à la ville, rien, chercher personne.
Eh, que veux-tu ? Dit sa femme. Est-ce qu'on discute les ordres d'un tsar ? Il te faut y aller.
Et donnant à son mari des conseils, elle lui fait cadeau d'une serviette brodée et d'une pelote. La pelote roule à travers champs et marais, elle longe rivières et lacs, et à sa suite marche le démuni.
Le chemin fut-il court ou long, le démuni traversa-t-il vallées ou monts ? Toujours est-il qu'il parvint à une petite isba, c'est la maison en bois faite avec des troncs d'arbres, montée sur des pattes de poule.
Petite isba, tourne le dos à la forêt, le devant de mon côté, dit le démuni.
La petite isba se retourna, il poussa grand la porte et entra. Sur le banc était assise une vieille à cheveux blancs.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'avais jamais perçu, jamais senti un Russe. Mais voici qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a un devant moi. Eh bien, vaillant gaillard, tu ne pouvais pas arriver plus à point. Justement, j'ai faim et je vais te manger. Tu ne sortiras pas vivant d'ici.
Qu'est-ce que tu racontes, vieille diablesse ? Comment tu oserais manger un cheminot osseux et crasseux ? Fais donc chauffer d'abord l'eau du bain pour me laver et me frotter. Alors tu pourras manger à ta faim.
La vieille fit chauffer le bain. Une fois lavé et frotté, le démuni prit la serviette de sa femme pour s'essuyer le visage.
Mais d'où vient cette serviette ? C'est ma nièce qui l'a brodée.
Alors, c'est que j'ai épousé ta nièce.
Oh, mon cher neveu, laisse-moi donc te régaler.
La vieille déballa toutes sortes de plats, d'alcools et de miel. Sans se faire prier, le démuni sa table. Il mange de bon cœur. Le voilà repu, comblé, bourré, couché par les soins de la vieille. Elle s'assied à côté de son lit et le questionne.
Où vas-tu, vaillant gaillard ? Est-ce de gré ou de force que tu chemines ?
Comme si c'était de bon gré qu'on obéissait aux ordres du tsar. Il m'a commandé d'aller à la ville, rien, chercher personne.
De bonne heure le matin, la vieille le réveilla, appela sa chienne.
Tiens, dit-elle, prends cette chienne avec toi, elle te conduira.
Au bout d'un an de route, le démuni atteignit la ville rien, où nulle part il ne vit âme qui vive. Il pénétra dans le palais et s'embusqua derrière le poêle. Sur le soir, entre un petit vieux, haut comme l'ongle, mais à la barbe longue comme le bras. Le vieux crie.
Oh là ! Personne ! J'ai faim !
En un rien de temps, tout est prêt. Le petit vieux s'empiffre et s'en va. Aussitôt, le démuni quitte le poêle et crie.
Oh là ! Personne ! J'ai faim !
Personne lui donne à manger.
« Oh là, personne, à boire !»
Personne lui sert à boire.
« Oh là, personne, en route !»
Personne ne s'est pas refusé. Le démuni prit le chemin du retour. Il alla. Tout à coup, à sa rencontre, il vit s'avancer un homme qui s'appuyait sur un bâton.
« Halte, dit-il au fils de marchand, donne à boire et à manger aux passants fatigués. »
Le démuni appela.
« Oh là, personne, sers le repas !»
Et en rase campagne, surgit une table dressée toute garnie de viande, d'alcools et de miel.
Le passant but et mangea jusqu'à être rassasié, puis il dit
« Échange donc ton personne contre mon bâton. »
« Et à quoi sert-il ce bâton ?»«
Eh bien, imagine que tu aies une dispute avec un costaud. Tu n'as qu'à dire « Eh bâton, rattrape-le celui-là et frappe-le à mort. » Et dans l'instant, si bien taillé, si fort soit-il, le voilà étendu à terre.
Le démuni fit l'échange, prit le bâton, s'éloigna de 50 pas et prononça « Eh bâton, rattrape ce paysan, frappe-le à mort et reprends-lui mon personne. »
Le bâton se mit à sauter d'un bout sur l'autre, roula ainsi jusqu'à l'homme et d'un coup l'étendit raide mort.
Le démuni poursuivit sa route. Il marcha, marcha et croisa à nouveau un paysan qui tenait des gousselis. Les gousselis, G-O-U-S-L-I, sont des petites harpes populaires, une espèce d'instrument de musique à cordes.
« Arrête !» cria celui-ci au fils de marchand. « Veux-tu échanger ton personne contre mes gousselis ?»«
À quoi sont-ils bons, tes gousselis ?»«
Oh !»
répondit le paysan. « Mes gousselis ne sont pas de simples gousselis. »
Il suffit d'en pincer une corde pour que la mer bleue déferle. Il suffit d'en pincer une autre pour que des navires y voguent. Et si on en pince une troisième, les voilà qui se mettent à tirer au canon.
Le démuni fit confiance à son bâton.
« D'accord pour l'échange, dit-il. »
L'échange eut lieu, et 50 pas plus loin, sur l'ordre de son maître, le bâton roula jusqu'au paysan et le tua net. Comme il approchait de son royaume, le démuni eut l'idée de faire une farce. Il prend les gousselis, pince une corde, la mer bleue déferle. Il en pince une autre. Les vaisseaux accostent près de la capitale. Il en pince une troisième. Les canons tirent. Le tsar prit peur. Il ordonna de réunir une grande troupe, de reprendre la ville à l'ennemi. Là-dessus, le démuni se présenta. « Majesté, il n'y a pas de mal sans remède. Ordonnez que l'on coupe la jambe droite et le bras droit à votre général, et comme par enchantement, les navires disparaîtront. » Sur l'ordre du tsar, on coupa au général jambes et bras. Pendant ce temps, le démuni rangea ses gousselis, et mer et bateau, tout s'évapora en fumée. De joie, le tsar donna un grand festin, au cours duquel on entendit sans arrêt « Oh là, personne, donne ceci, apporte cela !»
Depuis lors, le général détesta le fils de marchand pis que jamais et chercha tous les moyens pour lui nuire, lui faire du mal. Après avoir consulté la vieille sorcière, il fit son entrée au palais, appuyé sur sa béquille et dit « Votre Majesté, par-delà 3x9 pays, dans le 3x10e royaume, vit le chat compteur. Monté sur sa colonne haute de 25 mètres, il bat à mort quiconque veut l'approcher. Eh bien, le démuni prétend qu'il est capable de vous le ramener. »
En voyant chercher le démuni, le diable lui fit servir un verre de vodka. Tu sais, cet alcool très fort qu'on boit en Russie.
« Va, dit le tsar, par-delà 3x9 pays, dans le 3x10e royaume, et rapporte-moi le chat compteur. Sinon, tu seras privé de ta femme. »
Le fils de marchand rentre au logis, versant des larmes amères. Sa femme l'accueille.
« Pourquoi pleures-tu? Quelqu'un t'a-t-il offensé? Le tsar ne t'a pas offert à boire, pas assis à ta place? Ou bien t'a-t-il chargé d'une tâche difficile? « Oh, pour difficile elle l'est !» répondit le démuni. « Et d'abord à imaginer, il m'a ordonné de lui rapporter le chat compteur. »«
Compteur, compteur !» Qui sait compter, c'est O-M-P-T-E-R. Non, conteur qui raconte des contes, c'est O-N-T-E-S.
Bien, dit la femme, prie le bon Dieu et va te coucher. On est plus malin le matin que le soir.
Le démuni, une fois couché, sa femme alla à la forge lui forger 3 bonnets de fer, 3 pains de fer, des tenailles de fonte et 3 baguettes, la première en fer, la deuxième en cuivre, la troisième en étain. À l'aube, elle le secoua. « Tiens, voilà 3 bonnets, 3 pains et 3 baguettes. Et maintenant, va par-delà 3x9 pays, dans le 3x10e royaume, chercher le chat compteur. Mais veille à ceci, continua la femme. Tu n'auras pas fait une lieue, 4 kilomètres, dans ce pays, que tu seras envahi d'un sommeil invincible. C'est le chat conteur qui cherchera à t'endormir. Prends garde à ne pas céder au sommeil. Avance en faisant la roue, en jetant un bras après l'autre, une jambe après l'autre. Car si jamais tu t'endors, le chat conteur fera de toi 2 bouchers. Après l'avoir ainsi enseigné, sa femme le laissa partir. Le chemin fut-il bref ou long, le temps passa-t-il vite ou non, toujours est-il que le démuni gagna le 3x10e royaume. Au bout d'une lieue, un sommeil invincible l'envahit. Il enfila les bonnets de fer et se mit à avancer en faisant la roue, jetant en avant un bras après l'autre, une jambe après l'autre. Le voilà au pied de la colonne. Le chat conteur lui saute sur la tête, met en pièce le premier bonnet, puis le deuxième, s'attaque au troisième, mais le vaillant gaillard l'attrape dans les tenailles, le traîne à terre et se met à le fouetter, d'abord avec la baguette de fer, puis avec la baguette de cuivre, qui casse toutes les deux. Alors il prend la baguette d'étain. Celle-ci ploie, plie et s'enroule autour du chat. Le chat conteur se met à dire « des comptes, encore des comptes !» Mais le fils de marchand fait la sourde oreille, tout en le fouettant de plus belle. Le chat n'en peut plus, il voit que ses paroles sont sans pouvoir, et à bout de force il crie grâce.
« Miaou ! Pitié, brave homme, je ferai ce que tu voudras !»«
Viendras-tu avec moi ?»«
Si tu veux, miaou !»
Le démuni relâcha le chat conteur. Celui-ci l'invita chez lui, le fit asseoir, mis sur la table de pleines fournées de pain. Au bout de quelques morceaux, le démuni s'arrêta. Il ne pouvait plus avaler une bouchée. Le chat miaula en grondant.
Quel genre de chevalier es-tu, si tu ne manges pas autant que moi?
Le démuni lui répondit. Je n'ai pas l'habitude de ce pain-là, mais j'ai dans ma besace des biscuits russes que j'avais pris pour couper la faim. Il sortit le pain de fer et fit mine de l'avaler.
Tiens, tiens, dit le chat conteur, donne que je goûte un de ces biscuits russes.
Le fils de marchand lui donna un pain de fer que le chat grignota entièrement, lui en donna un autre dont il vint à bout aussi, lui présenta le troisième. Le chat rongea. Et les dents toutes cassées, il jeta le pain sur la table en disant
« Eh bien, ils sont coriaces, ils sont vraiment durs, les biscuits russes, miaou !»
Et le démuni se mit en route, accompagné du chat. Ils regagnèrent le palais. Ils entrent, le tsar aperçoit le chat conteur et il ordonne « Allons, chat conteur, vas-y, fais-moi peur !» Le chat sort ses griffes pour les essayer sur le tsar. Déjà, il lui déchire la poitrine, lui arrache le cœur. Le tsar prit peur pour de bon et supplia le démuni. « au secours, calme-le, je t'en prie, demande-moi ce que tu voudras. »« Je veux, dit le démuni, qu'on enterre vivant le général. » Le tsar accepta. Aussitôt, on attrapa le général par le bras et la jambe, on le traîna dans la cour, on l'enterra vivant dans la terre humide. Le démuni demeura auprès du tsar. Le chat leur obéissait à tous deux. Personne les servait et ils vécurent longuement et heureusement. Fin du conte du démuni et fin de la face A de cette deuxième cassette. Laisse cette cassette se dérouler jusqu'à la fin et retourne-la pour avoir le conte suivant.